Chapitre 15. Le lundi matin, Libby arrive au travail avec 20 minutes de retard. Dido l'attend inquiète, car Libby n'est jamais en retard.
« J'allais t'appeler. Tout va bien ?»
Libby hoche la tête, sort son téléphone, son baume à lèvres et son gilet en laine. Elle range son sac sous son bureau, elle se détache les cheveux, les rattache en chignon au sommet de son crâne, tire sa chaise et s'y laisse choir lourdement.
« Désolé. Je n'ai pas dormi de la nuit. »
Ça se voit, tu as très mauvaise mine. Trop chaud ? » Elle acquiesce, mais son insomnie n'a rien à voir avec la température. Plutôt avec ce qui se joue dans sa tête.
« Je te prépare un bon café serré. »
En temps normal, Libby l'arrêterait, lui dirait qu'elle peut le faire toute seule. Mais aujourd'hui, ses jambes sont si lourdes et tout lui semble si compliqué qu'elle la remercie. Elle regarde sa collègue préparer le café, et s'apaise en observant les cheveux teints en brun de Dido qui brillent sous les lumières du bureau. Elle remarque la façon dont sa collègue se tient, une main dans la poche de sa robe chemise noire, ses petits pieds plantés dans le sol, éloignés l'un de l'autre, dans des baskets en velours vert foncé.
« Tiens !» lui dit-elle en posant la tasse de Libby sur son bureau. « Ça ne devrait pas te faire de mal. »
Elle connaît Dido depuis 5 ans, et sait beaucoup de choses à son sujet. Sa mère est une poétesse reconnue, son père le rédacteur en chef d'un journal important. Elle a grandi dans l'une des plus belles maisons de St. Albans et a été éduquée par une gouvernante. Son petit frère est mort quand il avait 20 ans et Dido n'a pas eu de relation sexuelle depuis 11 ans. Elle vit dans un petit logis en bordure du domaine de ses parents et elle s'occupe encore du cheval qu'elle montait quand elle était adolescente, Étincelle. Dans leur testament, ses parents lèguent le manoir à la fondation du patrimoine, pas à leur fille, et ça ne la dérange absolument pas. Libby sait que sa collègue aime le thé en sachet, Benedict Cumberbatch, les chevaux, les chocolats pralinés, l'eau de coco, Doctor Who, le linge de maison de luxe, le parfum Orange Blossom de Joe Malone, les poêlés de légumes, la chaîne de restaurant Nando's et les soins au visage, mais elle n'est jamais allée chez elle. Et n'a jamais rencontré ni ses parents ni ses amis. À l'exception de la fête de Noël de l'entreprise, qui se tient chaque année dans un hôtel chic, à côté du bureau et des pots de départ de collègues, elle n'a jamais passé de temps avec elle en dehors du travail. Elle ne sait pas vraiment qui est Dido. Pourtant, en la regardant à ce moment-là, Libby sait immédiatement quelle est la personne dont elle a besoin. Samedi dernier, elle a passé la soirée dans le jardin d'April, flirtant plus ou moins avec un Danny qui n'était pas si attirant que ça, avec son visage de garçon de 8 ans et ses toutes petites mains. Quand elle cherchait autour d'elle quelqu'un avec qui elle aurait pu partager les événements incroyables qui lui arrivaient, parler de la maison, de l'article sur la mort de ses parents et de la toux qu'elle avait entendue au grenier, elle ne voyait que des gens comme elle, des gens normaux, avec des vies banales, des jeunes qui vivaient encore chez leurs parents, ou dans de petits appartements en colocation avec leurs amis, des gens qui remboursaient leurs prêts étudiants, qui avaient des jobs et des aspirations sans intérêt, des peaux bronzées aux UV, des chiens microscopiques qui tenaient dans un sac à main, des dents blanches, des cheveux propres. Elle s'était sentie coincée entre deux extrêmes irréconciliables et était partie avant 23 heures. Une fois chez elle, elle s'était installée devant son ordinateur pour lire ce qu'Internet pensait qu'il était arrivé à Serenity Lamb. Malheureusement, cela avait soulevé plus de questions qu'apporté de réponses, et elle avait finalement refermé son ordinateur d'un geste là, à 2 heures du matin, avant de s'endormir d'un sommeil agité par des rêves peuplés de rencontres et de symboles étranges.
« J'ai besoin d'un conseil à propos de Chelsea. »«
D'accord, » répondit Dido en touchant le disque d'argent qui pend à son cou.
« Et quel genre de conseil ?»« Je voudrais en parler, c'est tout. Parler de maison. Je me disais que tu devais t'y connaître. »«
Je connais une maison, pas toutes les maisons. Mais oui, on peut discuter. Viens dîner chez moi.
Quand ?»«
Ce soir. »«
Oh, merci. »
Le cottage de Dido est magnifique. 2 fenêtres à croisées entourent la porte d'entrée vers laquelle mènent des massifs de rosiers. Sa Fiat Spider noire décapotable est garée devant la maison. Les deux vont si bien ensemble que Libby ne peut s'empêcher de sortir son téléphone pour prendre une photo qu'elle postera plus tard sur Instagram. Dido, vêtu d'un pantalon large à motif floral et d'un gilet de costume noir, lui ouvre la porte. D'imposantes lunettes de soleil, rouges, retiennent ses cheveux en arrière. Elle est pieds nus. Libby ne l'a jamais vue qu'avec les baskets qu'elle porte au travail, et elle est surprise de découvrir deux petits pieds aux ongles roses parfaitement vernis.
« C'est magnifique !»
s'extasie-t-elle en entrant dans un vestibule au mur blanc avec des tomettes au sol.
« Absolument magnifique !»
La maison est remplie d'objets et de meubles de famille. Rien ne vient d'IKEA ici. Les murs sont recouverts de tableaux abstraits aux couleurs vives, et Libby se souvient que la mère de Dido peint à ses heures perdues. Sa collègue la guide jusqu'à la baie vitrée, qui donne sur un parfait petit jardin à l'anglaise, où elle s'installe dans des sièges en rotin rehaussés de coussins à fleurs. Libby se dit que Dido n'a probablement pas besoin de travailler pour vivre, et que concevoir de belles cuisines pour de riches clients n'est qu'un passe-temps pour elle. La maîtresse des lieux dépose sur la table une salade de quinoa et d'avocat, un bol de pommes de terre sautées, une miche de pain noir et deux verres à champagne pour servir le prosecco que Libby a apporté.
« Tu vis ici depuis longtemps ?»
demande Libby en beurrant une tranche de pain.
« Depuis que je suis rentré de Hong Kong, quand j'avais 23 ans, c'était l'atelier de ma mère, elle me l'a laissé. Mon frère devait hériter du manoir, mais... »
Libby esquisse un sourire triste. « Le manoir, l'atelier, c'est un autre monde. »
« Je suis désolé. Moi aussi. Enfin, leur maison n'est franchement pas un cadeau, et je suis contente de ne pas avoir à m'en occuper. »
Libby hoche la tête. Une semaine auparavant, elle n'aurait jamais compris qu'une grande et belle demeure puisse être un fardeau.
« Mais parle-moi de ta maison à toi, et dis-moi tout. »
Libby avale une petite gorgée de prosecco, pose le verre sur la table et s'installe au fond de son fauteuil.
J'ai trouvé un article du Guardian qui parle de la maison, de mes parents, de moi.
Comment ça?
C'est assez déconcertant, commence-t-elle en croisant les bras. J'ai été adoptée quand j'avais 1 an, et la maison de Chelsea appartenait à mes parents biologiques. Selon l'article, je suis née dans une sorte de secte.
Ce mot lui brûle les lèvres en quittant sa bouche. Elle a tout fait pour ne pas le prononcer, pour ne pas y penser. La réalité est aux antipodes du rêve pathétique dont elle s'est bercée toute sa vie.
« Une quoi ?»
demande Dido en frissonnant d'excitation.
« Une secte. Si l'on en croit l'article, il se passait des choses bizarres dans cette maison de Chelsea. De nombreuses personnes y vivaient dans un dénuement total. Les habitants dormaient à même le sol. Ils portaient des vêtements qu'ils fabriquaient eux-mêmes. »
Elle sort de son sac l'article qu'elle a imprimé.
« Regarde, ce sont mes parents. 6 ans avant ma naissance, à une soirée caritative. C'est incompréhensible. »
Dido lui prend l'article des mains.
« Dis donc, ils étaient glamour. » « Exactement. Ma mère était de toutes les soirées, elle travaillait dans la mode. Avant mon père, elle avait été fiancée à un prince autrichien. Elle est magnifique. »
La découverte du visage de sa mère avait été incroyable. Elle ressemblait à Priscilla Presley, avec sa chevelure noire et ses yeux bleus perçants. Elle ressemblait à tout ce que Libby avait imaginé. Même son métier était cohérent. Son père... Bon, il était habillé de façon élégante, mais il n'était pas très grand et assez rond. Et il était roux. Ça, elle ne l'aurait jamais soupçonné. Elle n'avait pas hérité de sa rousseur. Il était plus petit que sa mère, et il y avait quelque chose d'arrogant dans sa façon de lever le menton. Pourtant, on pouvait lire de l'appréhension dans son regard, comme s'il s'attendait à ce qu'on se moque de lui. Il tenait Martina Lamb par la taille, ses mains à peine visibles sur la photo. Elle portait un châle en soie autour de ses épaules, des bagues aux doigts, et ses hanches marquées se devinaient sous le tissu de sa robe de soirée. Selon l'article, c'était la dernière photographie à avoir été prise de ce couple mondain avant qu'ils disparaissent des radars, et qu'on retrouve leur cadavre chez eux, 7 ans plus tard.
« J'avais un frère et une sœur », ajoute-t-elle à toute vitesse, oubliant de respirer face au choc d'une telle révélation.
« Vraiment ?» s'exclama Dido en levant les yeux vers elle.
« Qu'est-ce qui leur est arrivé ?»« On ne sait pas. Le notaire pense qu'ils sont morts. »
Voilà. Elle a réussi à prononcer les horribles mots qui pèsent sur sa conscience depuis quelques jours. Cette vérité s'abat sur elle comme un coup de massue.
« Mon Dieu, mais c'est atroce !» Comment est-ce possible ?
Libby hausse les épaules.
Un voisin a appelé la police. Ils ont trouvé mes parents et un autre homme mort dans la cuisine. Une sorte de suicide collectif d'après les informations que j'ai pu recueillir. Et moi, j'étais là dans mon berceau à l'étage, en pleine forme. J'avais 10 mois. Et il n'y avait plus aucune trace ni de mon frère ni de ma sœur.
Dido s'enfonce dans son fauteuil, bouche bée. Elle ne dit rien pendant plusieurs secondes.
« Ok, » reprend-elle en se massant les tempes. « Donc, une secte. Et un suicide collectif de tes parents et d'un autre type. Ils se sont empoisonnés avec des plantes qu'ils cultivaient dans le jardin. »
Dido ouvre la bouche encore plus grand.
« Mais bien sûr, » commente-t-elle d'un ton sec. « Pourquoi pas ?
Putain ! L'article raconte autre chose ?
Apparemment, d'autres gens vivaient dans la maison. Une autre famille, peut-être, avec des enfants. Mais quand la police est arrivée sur les lieux, il n'y avait plus personne, sauf les cadavres et moi. Tous les enfants avaient disparu. Et on n'a pas eu de nouvelles depuis. »
Dido frissonne et pose une main sur sa poitrine.
« Ton frère et ta sœur ?
Oui. »
Ça faisait déjà plusieurs années qu'on ne les voyait presque plus. Les voisins pensaient qu'ils avaient été envoyés en pensionnat, mais ils n'étaient inscrits nulle part. L'un d'eux a dû rester dans la maison après la mort de mes parents, parce que quelqu'un s'est occupé de moi après les suicides. Ma couche était propre. Et quand on m'a trouvé dans le berceau, il y avait ça avec moi.
Conclut-elle en sortant la patte de lapin de son sac et en l'attendant à Dido.
C'était à côté de moi, sous ma couverture.
Pour te porter chance.
« Probablement. »«
Et l'autre type qui a été retrouvé, c'est qui ?»«
On ne sait pas. » »« Il n'y avait aucune pièce d'identité, simplement ses initiales sur la lettre d'adieu. »« Personne n'a déclaré sa disparition. Personne ne l'a reconnu d'après le portrait robot de la police. »« On imagine que c'était un vagabond, peut-être un gitan, ce qui pourrait expliquer la patte de lapin. »«
Des gitans ?» murmura Dido en savourant ce mot. « Incroyable !»
Et la maison est flippante, très sombre. Quand j'y suis allé samedi matin, j'ai entendu du bruit au dernier étage.
Quoi ?
Quelqu'un qui se déplaçait et qui toussait.
Tu es sûr que c'était pas les voisins ?
C'est possible. Mais on aurait vraiment dit que ça venait du dernier étage de la maison. Maintenant, j'ai trop peur d'y retourner. Je crois que je devrais la vendre, m'en débarrasser et tourner la page, mais...
Ton frère et ta sœur.
Exactement. La vérité sur cette histoire. Tout est lié à cette maison. Si je la vends, je risque de ne jamais découvrir ce qui est arrivé.
Dido parcourt rapidement l'article, puis observe Libby.
« Lui, » dit-elle en tapant du doigt sur le bas de la feuille. « Le journaliste, Miller Rowe, » ajoute-t-elle après avoir déchiffré le nom.
« C'est lui qu'il te faut. Contacte-le.
Il va complètement halluciner de recevoir un message de ta part. »
Serenie Lamb en chair et en os avec sa patte de lapin. Le silence retombe entre elles. Sur la table, le talisman est nimbé de la douce lueur du soir. Libby reprend l'article et lit le nom du journaliste. Miller Rowe. Un nom peu commun, facile à trouver sur Internet. Elle sort son téléphone et entre ce nom dans son moteur de recherche. En moins d'une minute, elle obtient son adresse mail au journal. Elle tourne son écran vers Dido, qui acquiesce, l'air grave.
« Bien joué !»
approuve-t-elle en levant son verre et en le tendant vers Libby.
« À Serenita Lamb et à Miller Rowe, pourvu qu'ils t'aident à faire la lumière sur ton passé. »